Bonjour chers auditeurs, nous avons la joie de recevoir ce matin quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas, que l'on entend quelquefois sur ces ondes, et, mais qui s'appelle Serge de Bekech. Nous le recevons pour un livre dont il n'a pas pu beaucoup parler, parce qu'en fait dans sa propre émission, on n'arrive pas avec son propre travail, c'est ça le jeu. Enfin, tout le monde ne fait pas ça, mais mais bon, nous allons parler du catalogue des nuisibles publié aux éditions Les Vilains Hardis, donc Serge de Bekech. Cela dit, je crois qu'il y a des gens qui n'écoutent pas forcément le soir et qui vous connaissent peut-être moins.
Oui, je voudrais bien m'excuser parce que je suis un peu envahissant. J'étais tout à l'heure à 7h30.
Non, dans la deuxième partie, c'était Bernard Antoni.
Oui, mais à 7h30, c'était moi.
Non, non, puis vous savez, il y a des invasions qu'on aime et puis d'autres qu'on aime moins. C'est bien connu.
Donc, ceux qui ne m'aiment pas, ils ont une heure de tranquillité là pour
rester. Non, alors justement, vous allez avoir, chers auditeurs, un aperçu littéraire de Serge de Bekech, parce que nous abordons ses talents littéraires, puisque ce livre est un recueil de portraits, bien évidemment, au burin, des portraits extrêmement incisifs qui relèvent d'un genre littéraire qui s'appelle le pamphlet. Le pamphlet, chers auditeurs, c'est un art à part, c'est une nécessité, c'est thérapeutique. Dans notre humaine condition, si l'on est lénifiant et si on se lève tous les matins en courbant la tête, eh bien, il y a des chances que le soir, on arrive plus courbé encore. Et donc, le pamphlet vous aide finalement à relever la tête. Et j'ai été voir, pour introduire cette émission, un livre précieux que j'ai à la maison, qui m'a été donné par mon premier maître, qui s'appelait Pierre Cipriot. Et c'est un livre de Pierre Dominique, Les polémistes français depuis 1789. Et il a sélectionné, ce brillant journaliste, il a sélectionné un certain nombre de textes extrêmement intelligents et forts, qui font de ce petit livre, qui est épuisé aujourd'hui, mais qu'on devrait rééditer. Voilà l'une des définitions du pamphlétaire. Le plus souvent, le polémiste n'est pas mené par le souci de nuire, mais par le besoin du combat, de l'action. Le lion, le chat griffe les écorces, le cheval dans le pré rue vers le ciel. Écrire, c'est toujours se libérer d'une fureur, d'un désespoir, d'une haine, parfois d'un amour qui pourrait vous étouffer. Le polémiste repère une guape, un marlou, un usurier, un arriviste, un vendu, et il siffle, il hue. Mais parfois, c'est une équipe d'hommes de main ou d'hommes d'État, hommes publics en somme, et qui, eux aussi, ont droit au sifflet et à la huée. Ou bien une nation, une religion, toute une époque, car le polémiste a le droit de regarder de haut et de loin. Ce coup de sifflet, c'est un article, et cette huée, c'est un pamphlet. Puis, le polémiste, satisfait, rentre chez lui, ou peut-être les gendarmes vont venir le chercher. Parce que celui qui l'a sifflé, hué, est puissant, ou que la nation, la religion, l'époque, par lui méprisée, bafouée, sont sacro-saintes. Mais peu importe, les gendarmes qui, sans doute, ont leurs menottes en poche, rencontrent un homme délivré. J'ai trouvé que ce portrait était rigoureusement le vôtre.
C'est très vrai. Il y a une petite nuance, c'est que le pamphlétaire ne rentre pas chez lui apaisé ou délivré, parce que malheureusement le hurlement de colère n'apaise pas la colère, et surtout pas à notre époque. C'est vrai que quand Pierre Dominique écrivait ça, Pierre Dominique était un journaliste assez brillant, enfin très brillant d'ailleurs, très cultivé, comme on était dans les générations précédentes, et qui a beaucoup écrit à l'époque de De Gaulle. Donc à l'époque de De Gaulle, être pamphlétaire, ça avait un sens, parce qu'on risquait d'aller en prison, quand même, encore. Tandis qu'aujourd'hui, on a l'impression de donner des roulades dans un édredon. Et donc le risque est moins grand. Le fait que le risque soit moins grand rend le jeu moins amusant et puis apaise moins, bien entendu. Il est moins grand. Encore, il faut corriger ça. C'est-à-dire que du temps de De Gaulle, la moindre allusion au président de la République valait une inculpation pour offense au chef de l'État et on risquait la prison. On risquait de perdre ses décorations si on en avait. Dieu merci, j'en ai pas. On risquait beaucoup de choses. Maintenant, vous pouvez très bien dire Chirac est un escroc. Ça pose absolument aucun problème. Hey. Mais si vous dites l'homosexualité est une anomalie.
Ce que vous ne dites pas.
Ce que je ne dis pas, bien entendu. Voilà. C'est tout à fait normal.
Absolument.
On est bien d'accord sur le fait que. Ah, oui. Utiliser les différents émonctoires à des usages originaux, c'est une activité tout à fait normale. Bon, ça, je suis bien d'accord.
Là, il y a quand même le problème du rabbin. Parce que le rabbin qui a pris
le
position.
Le rabbin Wertenschlag.
Qui a pris position, ouais. Là, assez fermement, ça va faire désordre.
Mais on va voir si un rabbin est aussi poursuivable qu'un député. C'est la question que je pose dans le dernier numéro du Libre Journal. Est-ce que le fait d'appartenir au peuple élu protège plus que d'être un élu du peuple? On verra. Ouais. J'attends de savoir si
un pauvre élu catholique.
Le lobby va poursuivre le rabbin. Ça serait amusant, en tout cas, on verra. Bon, mais c'est pas le sujet central. Le fait est qu'aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut d'individus qui sont placé très haut, comme le président de la République, enfin encore que aussi haut qu'on soit assis, on est toujours assis que sur son cul, comme disait je ne sais plus qui. enfin lui, au moins, il se sert de ça pour s'asseoir, quoi. Et pas à d'autres fins. Tandis qu'on peut pas dire la chose, on peut pas dire la même chose de gens qui ont une activité comme celle que je viens d'évoquer. Et là, il faut choisir ses ennemis. Il faut choisir mais surtout il faut choisir son ton. Et c'est ça qui est amusant, c'est d'arriver à faire passer certains messages qui font trépigner de rage ceux qu'on attaque parce qu'ils n'arrivent pas à trouver exactement à quel endroit ils peuvent vous attaquer.
Oui, et puis parce qu'ils sont meurtris par l'ironie mordante avec laquelle vous les traitez. On n'est pas devant la justice, on est devant des vanités bafouées.
Oui, la plupart du temps c'est ça. Et puis devant des juges asservis.
Et des juges asservis. Alors ça, c'est le premier sujet que je voulais traiter ce matin. C'est votre présentation de deux cas de cas de justice un peu triste qui a secoué la presse. Cette histoire du procès de et du jugement rendu par le juge Fabrice Bourgault, qui a envoyé en prison pendant 3 ans des gens qui n'étaient pas coupables et qui se posent assez peu de questions, il faut bien le dire, alors que les dégâts sont considérables et que ce n'est pas parce que on aura payé de l'argent à ces gens qu'ils vont retrouver la paix. La preuve en est qu'un de ceux qui avait été incarcéré vient d'être réincarcéré parce que il avait perdu toute situation, il s'est mis à boire, il s'est mis à se droguer et il a été pris en flagrant délit de drogue et donc il a été incarcéré.
Et cette histoire est monstrueuse parce que le petit juge en question, il a ravagé des dizaines de vies, parce qu'il y a ceux qui sont allés en prison, mais
il y a ceux qui sont restés
les
dehors.
Proches, il y a les femmes, sûr, les enfants, tout ça. Bon, il a eu que la seule sanction, c'est une promotion. Bon, si vous êtes chauffeur de taxi, que vous renversez une vieille dame sur les clous, on vous prend votre permis de conduire, on vous interdit de conduire un taxi, on vous envoie en prison, etc. Oui. Donc déjà, ça c'est intolérable. Mais ce qui est plus intolérable que tout, c'est que la même justice. Quand elle arrête ce pauvre garçon, évidemment, bon, c'est un pauvre type, quoi, c'est tout, qu'est-ce qu'il a fait, il a vendu, il a se baladé avec de la cam pour la vendre, ce qui est maintenant, c'est pratiquement moins grave que de fumer dans un lieu public. La même justice qui devrait dire, en bonne logique, on a une responsabilité, puisque ce type-là, on l'a rendu fou, donc l'a rendu malade. Donc on devrait montrer un peu de compassion et un peu de repentance. Tiens, voilà un joli mot. Pas du tout, elle l'envoie en tôle tranquillement. Donc voilà. Bon, vous avez... Et puis avec une espèce de jubilation. Et d'ailleurs, jubilation que j'ai trouvée assez partagée d'une façon assez répugnante par les médias. Parce qu'il n'y a pas que la justice dans cette affaire. Il faut quand même rappeler que les médias, les journaux, les télévisions, les radios, ont sauté sur cette affaire d'Outreau avec une véritable gourmandise. Et on sentait bien pourquoi. C'est parce que c'était... L'histoire de la pédophilie, l'histoire des réseaux pédophiles, c'est un peu une affaire, c'est un peu une affaire de classe sociale. C'est-à-dire, c'était des petits plaisirs faisandés pour des riches. Et là, pour une fois, on tombe sur des pauvres. Ah, on peut démontrer que les pauvres sont aussi salauds que les riches. Ouais. Hein, que c'est pas le fait de se rencontrer dans les boîtes de nuit et de sniffer de la coke toute la nuit qui fait qu'on devient pédophile. Il y a aussi, les pauvres dans leurs immeubles sordides de la banlieue lilloise, etc. Et donc, ils se sont jetés là-dessus, les journalistes, ils ont exploité ça jusqu'à la corde, et puis après, ils ont découvert que c'était totalement bidon. Ils ont fait des petites repentances, mais très maladroites, très, très bâclées, et quand ils sont tombés sur cette affaire du pauvre garçon, eh bien, on sentait qu'il y avait une espèce de soulagement. Ils ont dit, ah, il y a quand même quelque chose, on a fini par trouver une histoire.
Oui. Ils ne se rendent pas compte, d'ailleurs, de la force de leur sous-entendu.
Enfin, et puis il y a l'hypocrisie aussi. Il y a une extraordinaire hypocrisie. Il faut quand même dire une chose. 90% des hommes politiques en France, 90% de la classe dominante, de la classe médiatique, se shootent. Ils sont tous shootés à la cocaïne.
Oui.
Allez dans n'importe quel... Écoutez, c'est pas difficile. Bon, on a, c'est les Italiens
qui... Et quand ils se shootent pas, ils boivent en prenant du Lexomil.
Oui.
L'histoire du de la rue qui a explosé dans un avion. Enfin, je sais pas, mais il avait pris 6 Lexomil et 6 cafés plus l'alcool.
Oui, mais
alors c'est... évidemment après pour le maintenir, il a fallu mettre des menottes.
Mais parce qu'ils peuvent, ces gens-là mènent une vie. Les hommes politiques, les hommes de médias, mènent des vies qu'on ne peut pas supporter. Personne d'humain ne peut supporter de se lever tous les jours à 4h du matin pour être à 7h devant un micro et se coucher à 2h du matin parce qu'on a passé la soirée avec des amis à boire un coup et tout. Donc ils sont obligés de se shooter. Et ça fait des bon, ça c'est leur affaire, après tout c'est leur corps, ils en font ce qu'ils veulent. Mais que après ils prennent des airs indignés en disant c'est inadmissible,
les autres,
trafiquants de drogue, mais à qui ils l'achètent leur cam, eux? C'est pas les petites sœurs des pauvres qui leur livrent.
Alors déjà des messages, on vous dit, monsieur, une auditrice dit que vous n'avez pas à vous excuser, c'est toujours une grande joie de vous entendre et on en redemande.
C'est gentil,
un auditeur qui dit que, bien que darwiniste, il vous aime profondément parce que vous constituez une bouffée d'oxygène intellectuel, que votre humour réchauffe et qu'il ne regrette qu'une seule chose, c'est que l'on ne vous entende pas tous les jours à Radio Courtoisie.
Non,
donc vous voyez,
trop,
je suis
trop
assez confortée dans mes choix. Et puis une auditrice nous dit que Pierre Dominique, c'est vrai, écrivit pendant plus de 20 ans d'Henri Warhol, qui fut le directeur de 1970 à 1973.
C'était un bonhomme très exceptionnel. Je l'ai entrevu parce que j'étais un môme, j'étais un tout petit journaliste, tout né de rien du tout. Et alors, il faisait partie de ces hommes qui étaient des mythes vivants pour nous. Avec des gens comme que j'ai très bien connu, comme Devet, Boiseau, Brignot, qui est toujours, Dieu merci, parmi nous. Et qui étaient des figures là de la presse nationale, personnages complètement.
Il y a toujours eu des gens qui écrivaient très bien dans Rivarol.
Ah oui, ça, c'est certain, et ça continue encore. C'est-à-dire que quand je lis les papiers de
Camille,
il y a une maîtrise. Et puis alors, Camille appartient à cette génération.
Et Claude Lorne aussi, elle est pas mal.
Elle est pas mal. Toutes les deux, elles se débrouillent pas mal, il faut dire. Mais Camille appartient à cette génération qui est le quart de génération avant moi. C'est-à-dire, on doit avoir, je sais pas, 5-6 ans de différence, 8 ans de différence peut-être. Et elle a appris à travailler comme Brignot. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont une mémoire phénoménale, qui travaillent, tout le temps, qui classent leurs références, qui ont des souvenirs, qui ont des bons. Moi, je travaille quand même beaucoup avec Internet. Hein. C'est-à-dire que j'ai une mémoire assistée qui s'appelle Google, qui marche très très bien. Mais voilà, des gens qui sont des modèles professionnels, bien sûr.
Je rappelle d'ailleurs que, parce que des auditeurs m'avaient appelé après l'émission avec Camille Galli, que Rivarol, c'est un rue d'Hauteville, dans le 10e, s'ils veulent se procurer les numéros du Rivarol et des Cris de Paris. Et voilà ce que vous dites de notre Fabrice Bourgault, dont vous faites le portrait. Il n'y avait aucune arrière-pensée d'ambition chez Fabrice Bourgault. C'est bien plus grave. Son moteur n'était pas l'appétit des honneurs, des grades et des indices statutaires. C'était la discipline. Discipline, Helmut. Stricte application à la lettre de l'enseignement reçu. Aucune faute professionnelle. Respect des codes et règles. Application mécanique d'une technique. Il a instruit à charge. Il a cru, lui aussi, comme des milliers de journalistes imbéciles le répètent chaque jour dans leurs articles en bas javanais, que les accusés d'outreau étaient présumés coupables, alors qu'au terme de la loi, ils étaient au contraire présumés innocents. Et l'on voudrait faire un fromage de ce léger malentendu sémantique ? Mais si l'enfer s'est soldé par des années dans l'enfer de la préventive, par des existences calcinées et finalement par des centaines de milliers d'euros d'indemnités qui ne répareront rien, qui ne guériront personne, ce n'est pas parce que Fabrice Bourgault est méchant, c'est parce que la loi est comme ça, et le code de procédure pénale, et le ministère public, et la chancellerie. C'est parce que tout ce beau monde qui pinaille pendant une décennie pour savoir s'il est convenable d'entendre dans le cabinet d'un juge d'instruction un président voleur et sa mégère en veste de jean doublée de vison, n'hésite pas à enterrer préventivement en conscience un prêtre sur simple dénonciation d'une voisine. C'est parce que dans ce pays où un père de famille peut être congédié parce qu'il a 60 ans, on trouve normal de faire d'un célibataire de 30 ans un de ceux que Napoléon, qui s'y connaissait, appelait les hommes les plus puissants de France. Mais c'est aussi sans doute parce que dans tous les établissements d'enseignement, comme tout établissement d'enseignement et de grandes écoles en France, l'ENM est une usine à fabriquer des nuls. Des nuls du genre du juge Bourgault, qui n'aurait pas fait un meilleur avocat si on en croit son plaidoyer pro domo. J'ai peut-être commis des erreurs, mais qui n'en connaît pas ?
Ce qui est effrayant quand même, c'est que on donne à des gosses, parce que aujourd'hui
un homme de 30 ans,
on a établi la majorité à 18 ans. Oui. Enfin, un homme de 30 ans est un gamin.
Oui, oui,
bon, et on donne à des gamins.
Pas
des
une femme de 30 ans, mais homme.
Autre chose, les femmes, c'est encore autre chose. Il y a ce fameux problème de la maternité qu'il faudra régler un jour par la loi, d'ailleurs, parce que
c'est en train d'être réglé. Vous savez, on va bientôt se passer de nous.
Oui, mais ça peut pas durer. Mais c'est normal. En vrai, il y a un problème. L'égalité. Enfin,
ça sera moins
pourquoi
agréable,
les hommes sont-ils exclus de la gésine? C'est absolument scandaleux. Les hommes devraient pouvoir.
C'est une inégalité. Vous avez raison.
C'est une inégalité que la loi va certainement trouver moyen de, à laquelle la loi va certainement trouver moyen de remédier. Mais
ils n'ont pas le droit de porter l'enfant, mais en plus ils n'ont aucun droit sur l'enfant qu'ils ont procréé, puisque une femme peut avorter sans avoir la signature du mec qui l'a fait.
Oui, absolument.
Donc ça me paraît là le premier des droits de l'homme. Je pense que pourquoi est-ce qu'on ne referait pas une nouvelle charte des droits de l'homme,
Oui, je pense qu'il faudrait y penser. Hein? Mais encore que c'est en train de changer, parce que je vous signale, vous êtes peut-être au courant, mais en Italie, là, il y a depuis quelques jours, un juge d'instruction a ordonné à une adolescente de se faire avorter. Parce que les parents ont porté l'affaire de la gamine à 13 ans est enceinte. Bon, elle a dû faire quelque chose pour y arriver, probablement. Et donc les parents ne veulent pas que leur enfant soit enceinte, donc ils ont exigé qu'elle se fasse avorter. Et la gamine a refusé. Et les parents sont allés en justice, et s'est trouvé un magistrat.
Et ils ont gagné.
Oui, ils ont gagné. Donc il s'est trouvé un magistrat pour ordonner à cette gosse de se faire avorter. Alors, quand on en arrive mais en ce moment, la presse est très intéressante à lire parce que, vous savez que, moi, en tant que catholique, je crois au pouvoir du mal, je crois à la réalité physique du mal, ouais. Et à la réalité personnelle du mal. Et là, en ce moment, il est en train de montrer sa griffe absolument partout. Je lisais une autre information hier. Oui. Je ne sais plus dans quel pays c'est, peut-être en Italie encore, ou peu importe d'ailleurs. Un couple demande l'abolition des lois réprimant l'inceste parce que c'est un frère et une sœur qui vivent ensemble et qui ont 4 enfants. Voilà. Et donc, ils demandent qu'on supprime la loi qui prohibe l'inceste. C'est-à-dire un des plus vieux tabous de l'humanité, bien probablement. Vrai, parce que au bout de 3 générations d'inceste, ils commencent à vous pousser des oreilles au milieu du front. Hein. Donc, ça, c'est de la protection de l'espèce, quoi. Eh bien, non, ils vont arriver à leur fin. À partir du moment où on a légitimé la sodomie, je vois pas pourquoi on légitimera pas l'inceste. Et comme je le dis parfois d'une façon un peu violente et grossière, j'attends avec impatience le jour où on organisera des banquets coprophages place de la Concorde.
Pas le matin, Serge. On est juste avant le déjeuner, là, il est 11h.
Justement, ça fera maigrir un peu.
Alors, mais puisqu'on est dans ce sujet, il y a un article
pas les banquiers quand même
que j'aime beaucoup qui s'appelle les œufs de serpent. Les œufs de serpent où une association catholique s'éloigne d'une condamnation générale parce que c'est trop tradit. Alors on va lire cet article. Je rappelle que nous évoquons ce beau livre qui s'appelle Catalogue des nuisibles, les vilains hardis, Serge de Beketch, que l'on peut se procurer directement chez l'éditeur.
4 places France Litz
contre la somme de
25€ port compris.
25€ port compris. Et je peux vous dire, chers auditeurs, que c'est un cadeau à apporter. Au lieu d'apporter un bouquet de fleurs ou une bouteille de vin, vous apportez ce livre et
vous êtes sûr de vous faire des amis.
Ou vous faites des amis à vie, ou vous vous êtes débarrassé de gens avec qui vous n'avez rien à faire. Mais et en tout cas, c'est un test. C'est un test que je trouve assez fantastique. Mais voilà. Depuis des années, le mouvement Leni se donne pour un mouvement chrétien, fer de lance de la lutte contre la prostitution. Et des milliers de catholiques ont, en toute bonne foi, financé par leurs dons cette œuvre d'apparence respectable et caritative. Ce mouvement a par exemple publié un document, Prostitution sans question, pour comprendre, et qui témoigne une bonne appréhension du phénomène, de son ampleur, de ses causes, du rôle de ses agents, proxénètes, prostituées, clients et bien sûr, trésors publics. Tout cela est fort juste et fort bien dit. On n'en a que de plus de mal à comprendre l'attaque lancée par les responsables de cette association reconnue d'utilité publique et habilitée à recevoir des dons et legs contre certaines associations qui s'abstiennent soigneusement de dévoiler la totalité de leur position. Que dans un communiqué officiel, le NI taxe d'hypocrisie pour avoir appelé à la vigilance contre la pornographie. Et à qui il est reproché de pratiquer l'amalgame entre pornographie, homosexualité, pédophilie, interruption de grossesse volontaire ou thérapeutique, diagnostic prénatal de la trisomie, euthanasie, etc. Et le mouvement, entre guillemets, chrétien, que se prétend le NI de proclamer, ce combat n'est pas le nôtre, nous ne voulons pas notamment revenir sur la liberté sexuelle, nous voulons simplement promouvoir l'indispensable corollaire de la liberté sexuelle, une éthique de la responsabilité et du respect du désir d'autrui. Nous sommes tout aussi opposés au retour d'un ordre moral qui imposerait une norme sexuelle particulière qu'à l'utilisation d'êtres humains comme objet sexuel. Sur quoi l'auteur de ce texte étrange appelle à refuser les manipulations de certains groupes traditionnalistes. Et alors là, le mot affreux est lâché. Ça, c'est vraiment la tare parfaite. Ça, c'est un brasier. C'est la clé de l'affaire. Ce qui gêne les chrétiens du NI, c'est d'être assimilés à des traditionnalistes. Et c'est pour éviter cette abomination que l'association chrétienne n'hésite pas à se faire complice de ce formidable mensonge que l'on appelle la liberté sexuelle. Or, cette escroquerie sémantique a été dénoncée par tous les papes et notamment Jean-Paul II et Benoît XVI. Cette prétendue liberté est un esclavage et les bénéficiaires sont asservis aux mafias de la pornographie au même titre que les drogués sont les esclaves des dealers. La banalisation, voire la promotion de toutes les déviances, n'a pour but que de fabriquer de véritables toxicomanes de l'excitation sexuelle en perpétuel état de manque. Il est donc irresponsable de prétendre en même temps assumer la libération des mœurs et d'ignorer que la sexualisation incessante de la femme, mais aussi de l'homme et même de l'enfant, conduit directement à la prostitution. Ne serait-ce que parce que ce commerce reste le seul exutoire accessible, sans crime ni délit, à un jeune solitaire soumis en permanence au matraquage de la pornographie par la photo, la pub, le cinéma, la télévision, les magazines, le discours. Je ne continue pas parce qu'on n'a pas le temps, mais voilà, chers auditeurs, l'exemple même de l'hypocrisie sur lequel Serge de Maiketch met le doigt. Et ces hypocrisies, on en a sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt.
Ouais, ce qui est frappant, c'est... Moi, ce qui m'effraie même, c'est la perte de la capacité de discernement chez nos contemporains. Beaucoup de gens acceptent absolument n'importe quoi. Leur vie est littéralement meublée d'oxymores. C'est-à-dire que ils disent oui au noir et oui au blanc, oui au bien, oui au mal. Tout est bon, tout va bien, c'est pas grave. On peut être à la fois pour la liberté sexuelle et contre la prostitution, alors que c'est complètement idiot. Enfin, ça tient pas une seule seconde. Je veux dire, c'est imbécile. C'est comme si on était pour le. Enfin, c'est comme de dire, je suis pour qu'on vende de l'alcool librement à des enfants de 8 ans et je suis contre l'alcoolisme des enfants. Non, si on vend de l'alcool, les gens vont en boire. Les enfants vont en boire, ils vont tomber malades. Donc, il y a des relations de cause à effet entre les choses. On peut pas soumettre à la fois des jeunes gens ou des gens n'importe qui, de quel âge, à une excitation permanente par l'image, et puis s'attendre à ce qu'ils rentrent chez eux tranquillement et qu'ils se couchent tout seuls pour passer une nuit tranquille après une tasse de camomille. Ça marche pas comme ça.
L'homme ne marche pas comme ça,
il faudrait quand même s'en apercevoir depuis le temps. Ça fait quand même quelques milliers d'années qu'on vit avec l'homme, on aurait dû comprendre ça.
Mais si vous voulez aussi, il y a un refus de voir. Le diagnostic n'est pas posé. Vous voyez plus que les autres, parce que je crois que l'écrivain voit plus que les autres.
Je ne sais pas si on voit plus, je ne crois pas. Je crois que les autres voient, mais la différence, c'est que nous, on ose dire ce qu'on voit. C'est-à-dire, en réalité, qu'est-ce que c'est que le pamphlétaire ? Le pamphlétaire, c'est le gosse qui est sur les épaules de son père et qui voit passer le roi et qui dit « Mais il est à poil, le roi !» Alors que tout le monde dit, oh, quel beau costume. Ben non, il n'y a pas de costume, il est tout nu, voilà. Et ça, je dois tenir ça très vite parce que, on avait une légende familiale du côté de ma mère qui disait que un de nos ancêtres était sur les épaules de son père, justement, et a vu passer celui qu'on appelait le monarque piriforme. C'est-à-dire, je crois que c'était Louis-Philippe qu'on appelait le monarque piriforme. Et donc, le roi passait dans une solennité quelconque, et mon ancêtre qui était un gosse a dit à voix haute, c'était entendu par tout le monde, c'est ça un roi, et ben c'est drôlement laid. Bon. Et ça s'est reporté parce que mon oncle, le jour de la confirmation de sa sœur, ils avaient 7 ans de différence, donc lui devait avoir 5 ans, et ma mère, qui était sa sœur, donc devait avoir 12 ans. Quand il a vu rentrer l'évêque et sa suite dans l'église, c'était bien avant, naturellement, la réforme de Vatican II, la brillante réforme de Vatican II. Alors donc l'évêque est arrivé dans tout son appareil magnifique, etc., avec la crosse, la mitre, suivi par tous ces prêtres
en surplis blanc, dentelle.
Et dans le silence total de l'église recueillie, mon oncle a dit « Oh chic, v'là déjà tous les clowns !» Donc on est quand même une famille où il y a cette tendance à dire des choses qu'il ne faut pas dire au moment où il ne faut pas les dire.
Et votre maman était, redites ce qu'elle disait tout à l'heure, ce qu'on a dit avant le micro.
Elle avait tellement de phrases comme ça, c'était à propos de quoi, on parlait de quoi. Parce qu'elle avait beaucoup, beaucoup d'expressions que j'aimais beaucoup. Par exemple, quand on était à table, si on prenait le plus gros morceau dans le plat, elle disait « tu prends celui qui tient les autres à l'ombre ». Bon, mais elle avait, oui, beaucoup, beaucoup d'expressions. Je ne sais plus celle que je racontais
celle
tout à l'heure.
Que mais j'aurais dû la noter.
Mais ça fait partie aussi, voilà, qui fait partie de l'éducation, cette espèce de... d'habitude très très française de dire des choses piquantes ou voire même blessantes parfois pas pour blesser mais pour montrer qu'on n'est pas dupe. Et ça, voilà une chose qui se perd de plus en plus en France. La France, c'était le pays de l'esprit, c'était le pays de la répartie, c'était le pays de l'insolence,
de la lucidité. Corrosive.
Voilà. Et ben maintenant, on le fait plus. Et, les gens savent plus le faire. Les gens ont toujours peur.
On est considéré comme malhonnête et mal élevé, je veux dire.
Mal élevé,
si on dit.
Mais moi, je trouve que j'ai été très bien élevé. Et quand on est très bien élevé, on est impoli en général.
Bon. Un auditeur, où allez-vous signer votre livre ? Bravo pour tout ce que vous faites. La citation, vous allez signer à la fête de Radio Courtoisie,
oui,
le 13 mai. Le 13 mai, chers auditeurs. La citation que vous avez donnée, oui, on n'est jamais aussi haut assis que sur son cul, c'est Montaigne.
Oh, bah, c'est une bonne référence. Je ne savais pas que j'étais aussi cultivé.
Oui. Ah oui, l'église. Alors oui, ça, un homme, Radio Courtoisie n'est pas la radio de toutes les droites, puisque la droite païenne y est quasiment absente. Mais non, je vais inviter Alain de Benoît, cher monsieur, pour son beau livre « Nous et les autres ».
Oui, encore que la droite païenne... Moi, ça me fait quand même un peu rire, parce que ça n'a pas beaucoup de sens, païen. Païen, ça veut dire paysan, à l'origine.
Oui.
Donc, si c'est la droite paysanne, alors il y a Alexis Sarrête qui est formidable comme droite paysanne. Pour moi, il incarne le génie absolu de la droite paysanne. Et là, justement, tiens, je profite pour faire un tout petit peu de réclame. Je voudrais signaler à ceux qui aiment Alexis Sarrête.
Oui.
Un article extraordinaire qu'il vient de publier dans le Liber Mirabilis de Jean-Marc Savary et qu'il faut absolument lire. Ça s'appelle La lettre et l'esprit.
Oui.
Et vraiment, Alexis, c'est quelqu'un de tout à fait
extraordinaire. Alors, on trouve ce truc en écrivant à Lille. 11 000.
Oui, alors Lille, c'est Lille, L'ILE.
La véritable île. Édition Liber Mirabilis.
Voilà.
Le livre des merveilles, c'est ça ?
C'est ça.
Le livre merveilleux.
Le livre des merveilles. On peut traduire le livre des merveilles, c'est quand même plus beau que le livre merveilleux, je trouve. Alors, c'est donc effectivement à Lille, 11 000
carcassonnes. Mon latin s'éloigne.
Et on envoie 26 euros.
Voilà. Et le téléphone, 04 68 25 20 96. Ouais. 04 68 25 20 96.
Alors, je signale quand même que le papier, la lettre d'esprit d'Alexis Sarrête, qui est magnifique, et je ne dis pas ça parce qu'il parle de moi dans ce papier, c'est tout à fait anecdotique, hein.
Ouais.
Mais ça décoiffe pas mal. Et disons que les monomaniaques de l'antignostisme ou de l'antignosticisme vont croire encore que c'est un complot gnostique, alors que c'est vraiment pas ça, c'est simplement une réflexion sur la première phrase de la Genèse qui est Bereshit bara Elohim, c'est-à-dire au commencement était le verbe Bereshit bara Elohim, qui est une phrase qui à elle seule offrirait l'occasion d'une peut-être d'une centaine de milliers d'ouvrages de 100 pages.
Alors, j'ai trouvé un autre texte de vous, Serge de Vecchetch, dans un livre qui s'appelle « Nouvelles et textes littéraires français », qui est publié aux éditions de La Reconquête, et qui est une entreprise absolument étonnante, qui n'est pas ni à Asnières, ni Colombe, ni Chatou, qui est au-delà des mers. Et je voudrais qu'on rende hommage à cette maison d'édition qui s'appelle « Édition de La Reconquête », parce que, bon, d'abord, ils ont beaucoup de goût. Ah, on va citer tous ces titres. Et ensuite, alors qui est cet éditeur, Édition de la Reconquête ?
Philippe Régnier, c'est un...
Philippe Régnier.
Oui, il s'appelle Philippe Régnier. Et c'est un homme qui, à la suite d'un drame familial, a été obligé de s'enfuir, de s'exiler au Paraguay, où il est poursuivi par... comme il est traditionnaliste, comme il n'est vraiment pas de gauche, c'est le moins qu'on puisse dire... Et donc il est poursuivi par toutes les camarillas habituelles qui essayent de le faire extrader du Paraguay pour une affaire personnelle familiale. Ça n'a rien de criminel, rien du tout. C'est une affaire de un drame familial personnel. Et donc il s'est installé là-bas. Et il est bien accroché à la terre du Paraguay qu'il adore parce qu'il dit c'est un bordel génial le Paraguay. C'est-à-dire il y a pratiquement pas de loi, il y a rien. Il y a des gags fabuleux, par exemple. C'est une anecdote qu'il m'a racontée. Il y a un club de golf qui est réservé à la gentry d'Asunción et qui est installé le long d'une grande route. Et les gens d'Asunción viennent à ce club de golf. Et alors, quand ils arrivent devant le club, il faut qu'ils tournent à gauche et qu'ils coupent donc la route pour rentrer dans le club. Et alors, comme le directeur de ce club de golf a eu un différend avec le président du Paraguay, a ordonné que on fasse une ligne jaune de 50 km de long au milieu de la route en question.
Si bien
quand les gens d'Asunción arrivent, qui veulent tourner à gauche, il y a un flic qui leur interdit. C'est le seul endroit au Paraguay où on n'a pas le droit de franchir une ligne jaune. Et alors ils sont obligés de faire 100 km pour arriver. Bon, ça, voilà, c'est ce genre de pays comme ça. C'est un pays où on peut conduire sans permis de conduire. C'est un pays où on peut faire à peu près ce qu'on veut. On peut se balader avec.
Alors il a monté cette entreprise extraordinaire d'édition.
Une maison d'édition.
Il publie donc. Bon, prenons le premier exemple de ce matin. Nouvelles et textes littéraires français. Il publie une vingtaine de textes, mais absolument perlés, magnifiques, qui vont de Barbey d'Aurevilly, Baudelaire, Beckett.
Oui.
Vous êtes quand même bien placé.
Oui,
Blois,
c'est un gag, en fait.
Blois, Brasiliac, Jacques et Farrer, Saint-Jean-de-Perse, Saint-François de Sales. Et ça se termine à Villon, fantastique.
Alors, il faut quand même que je dise, j'ai absolument pas ma place dans ce livre. La raison, c'est que, comme je lui ai donné...
Vous voulez l'émission ?
La raison, c'est que j'ai donné un tout petit coup de main pour démarrer, pour lancer sa maison d'édition en France, tout simplement en la faisant connaître. Il a voulu me faire plaisir et il a pris un de mes textes qu'il a mis dans ce livre. Enfin, le voisinage avec Villon, avec Baudelaire.
Votre texte sur votre arrivée en Grèce est très joli.
Oui, enfin, c'est amusant.
C'est extrêmement précis. C'est un film de cette arrivée en Grèce. Et bon, ça se rapproche du texte sur la Bièvre de Huysmans ou du texte de. Il y a un autre très joli texte de Ramuse. Et puis, il y a cette balade contre les ennemis de la France, c'est fantastique. Il faut tenir en prison à la tour des Dalles qui mal voudrait au royaume de France. Ouais. C'est très très joli.
C'est beau, ça.
Très très joli. Et puis,
il y a de très beaux textes dans ce recueil.
Il y a très bien. Alors visiblement, on a les mêmes passions. Il aime Brasiliac, il aime Peggy, il aime...
il aime tout ce qu'il ne faut pas aimer, bien sûr.
Il aime tout ce qu'il ne faut pas aimer.
Il aime Jeanne d'Arc, il aime Maurras.
Il nous rend tous ces textes qui sont extrêmement difficilement trouvables.
Ouais.
Alors, je note, il y a tous les Maurras, ce texte célèbre, très joli, qui commence sur... la politique naturelle, l'inégalité protectrice. Le petit poussin brise sa coquille et se met à courir. Peu de choses lui manquent pour crier « Je suis libre ». Mais le petit homme, au petit homme, il manque tout. Bien avant de courir, il a besoin d'être tiré de sa mère, lavé, couvert, nourri. Avant que d'être instruit des premiers pas, des premiers mots, il doit être gardé des risques mortels. Le peu qu'il a d'instinct est impuissant à lui procurer. C'est des soins nécessaires. Il faut qu'il les reçoive, tous ordonnés d'autrui. Ce texte est magnifique. Vous pouvez le retrouver là.
Il a réédité, enfin, Régnier réédite beaucoup de textes de Maurras qui sont splendides et qui montrent que vraiment dans notre société et notre époque de crétinisme militant, où quand on a dit Maurras, on a dit antisémite et la conversation s'arrête. Et ben Maurras, c'est quand même un tout petit peu autre chose. Ça va beaucoup plus loin que ça.
Et germanophile, hein, parce qu'on lit ça aussi.
Oui, c'est ça, oui.
Maurras est responsable de l'occupation, de l'invasion et tout type quanti. Alors, vous tapez, chers auditeurs, édition de la Reconquête sur votre ordinateur. Et je dis souvent aux personnes d'un certain âge qui n'ont pas d'ordinateur, ils attrapent au lasso un adolescent, et l'adolescent sera absolument ravi de leur rendre ce service, ouais, et de leur tirer sur papier le programme des éditions de la Reconquête. Alors, on a cité Maurras, on a cité Brasiliac, il réédite le procès de Jeanne d'Arc, qui est une que Brasiliac a remis en forme, ouais, qui est absolument, ça,
c'est un texte
magnifique,
absolument essentiel,
qui est un texte magnifique.
Et je regrette, il voulait rééditer L'avenir de l'intelligence de Marcel de Corte, et les héritiers de Marcel de Corte le lui ont interdit, d'ailleurs d'une façon que je trouve véritablement grossière et plouque, et ils m'ont envoyé une lettre à moi aussi d'ailleurs en me disant pour m'interdire je ne sais quoi, je supposais que j'étais associé à cette entreprise, et je les ai renvoyés dans leur but assez sèchement. Je trouve scandaleux de garder en otage des textes de l'importance de ceux de Marcel de Corte. C'est vrai que nous sommes des nains montés sur des épaules de géants, mais quand les nains descendent des épaules de géants, il ne reste pas grand-chose. Hein.
Alors, il a republié aussi, et ça m'a beaucoup intéressé parce que j'y connaissais Pouic, j'avais lu une anthologie de textes que l'abbé Cellier avait édité chez Clovis. L'abbé Cellier a fait des petites anthologies pour dégrossir un peu des esprits ignorants. Et donc, j'avais un peu lu de Saint-Augustin, ce qui m'avait paru merveilleux. Là, il publie dans des petits textes d'une centaine de pages, des devoirs à rendre aux morts. Saint-Augustin, chers auditeurs, de ce qui est bien dans le mariage, on a tendance à oublier, on a intérêt à se faire des petites piqûres de rappel. De la patience, qui n'est pas mon fort. Vraiment, Saint-Augustin est parfait.
Enfin, Saint-Augustin, quand il parle de la patience, il faut le lire. Hein. C'est pas évidemment ce qu'on pourrait attendre.
Du travail des moines. Et puis Philippe Régnier a fait ce joli livre sur le général comte de Boigne.
Oui, c'est joli personnage.
C'est une belle destinée. Ouais.
Mais les Boigne, c'est une famille bénie des dieux, si je veux dire. Et vous avez lu les livres de la comtesse de Boigne?
Non.
Ah, c'est
admirable. Mais je sais qu'il faut que je fasse.
Ça, c'est vraiment admirable.
Je sais qu'il faut que je fasse.
20 ans, 1900, oui. C'est un vrai bonheur de lecture.
Alors, il a choisi comme exergue, parce que Philippe Régnier aime la littérature comme un fou, l'exergue du général comte de Boigne: ne crains pas la grandeur. Certains sont nés avec, d'autres l'acquièrent, d'autres encore reçoivent celles dont on les gratifie. Et c'est Shakespeare. Ce qui fait que finalement, tout le monde peut avoir accès à la grandeur. Il faut seulement le vouloir et la chercher.
Il faut travailler peut-être un peu aussi.
Il faut travailler.
Oui, il fait du beau travail, Régnier. Vous savez, et en plus, alors, sur
la qualité est très belle,
du papier,
oui,
est magnifique. Oui. Et il a des difficultés énormes, parce qu'au Paraguay, le papier comme ça, alors là, pour en trouver, c'est la proie et la barrière, comme disait ma bonne. Et si bien qu'il est obligé de, il va à la frontière, et il achète son papier en contrebande.
Ah oui. Ouais. Et c'est des petits livres qui ont l'air des livres anciens, et en fait, ils sont nés aujourd'hui. Alors
il travaille avec un imprimeur paraguayen qui est probablement un peu près un
alphabet. Édition de la Reconquête. Mais peut-être qu'il avait quand même...
On le trouve, hein.
Non, attendez, que je ne sois pas sotte. Il avait quand même une adresse précise, non?
Je crois pas. En France, il est...
Il est diffusé chez vous aussi.
Oui, mais je peux plus le faire parce que...
Vous pouvez plus le faire, bon.
Je l'ai lancé. Je l'ai aidé à démarrer. Oui. Mais il y a un moment où c'était un emploi à plein temps. Et oui, il se trouve que comme j'ai pas les moyens de payer un employé...
Ce qui est une bonne nouvelle.
J'ai pas les moyens de le faire.
Ce qui est une bonne nouvelle.
Oui, ça commence à être une bonne nouvelle, mais il faudrait qu'il en vende plus encore de livres. Parce que d'abord, c'est de la grande qualité. Il a un catalogue magnifique. Et ensuite,
tous ceux qui ont des bibliothèques,
des livres introuvables.
Tous ceux qui ont des bibliothèques doivent se procurer ces livres pour qu'ils soient accessibles à tout le monde. Encore une fois, édition de la Reconquête sur Internet.
Alors je crois qu'on trouve certains de ces livres chez France Livre.
Oui.
Je crois qu'on en trouve aussi à la librairie du Ken. Je suis pas absolument certain, mais il me semble. En tout cas, on peut toujours m'écrire pour avoir des renseignements, parce que s'il le faut, je transmettrai, mais
oui.
Je peux plus prendre la responsabilité que j'avais prise au début d'assurer l'envoi des bouquins, parce que c'est une charge trop lourde.
Donc, redisons l'adresse du Libre Journal. 4 Place Francis, 75-010. Et vous téléphonez, vous êtes toujours gentiment accueilli, 01 45 23 51 01.
Si je peux dire juste un mot à propos du bouquin.
Serge de Bequette, les messages affluent. Hein.
C'est gentil. Et si je peux dire un mot à propos du livre, si quelqu'un avait la fantaisie de l'acheter, ce qui me ferait infiniment plaisir, bien entendu, je demande qu'on établisse le chèque à mon nom, parce que c'est pas le Libre Journal, ça n'a rien à voir. C'est une autre entreprise. Voilà.
Une auditrice. Alors donc un chèque à Serge de Bequette pour donc le catalogue des Nuisibles, les Vilains Hardis. Une très bonne nouvelle dans ma paroisse où j'étais hier pour les cendres. J'ai eu le grand bonheur de voir la statue de Jeanne d'Arc toute illuminée par les cierges qui l'entouraient. Les gens commencent à comprendre. Merveilleuse émission. C'est vrai que quand on lit le procès de Jeanne d'Arc. On comprend vraiment pourquoi dans les moments de panique en France.
Oui, mais il se passe quelque chose en ce moment, c'est évident.
On se raccroche.
Hier soir, en sortant de l'émission, je suis allé au centre parce que Dieu merci, la cérémonie était un peu tardive et j'étais frappé par le nombre de fidèles. Et deuxièmement, alors que c'est une paroisse. Disons, normale, paroisse parisienne normale. Et deuxièmement, la qualité du recueillement et de la participation à l'office. Oui, c'était très frappant. Là, il y a une espèce d'angoisse qui monte, on le sent très bien.
Oui, il y a une angoisse.
Et ben, comme toujours, c'est porteur, c'est positif.
Oui, bien sûr. Oui. En tout cas, je conseille ce petit livre, Nouvelles et textes littéraires français, parce que ils auront parce que c'est du style à l'état pur. C'est le style français dans sa plus grande merveille. On me demande souvent qu'est-ce que le style. Eh bien, voilà. Et comme on n'a plus beaucoup l'habitude de rencontrer ce style, chers auditeurs, vous pouvez, avec Nouvelles et textes littéraires français, avoir une idée. Et en plus, vous avez ce texte de Serge qui débarque en Grèce et qui est très, très amusant. Voilà, il y a aussi aux éditions de la Reconquête une Arcanum. Lettre encyclique Arcanum du souverain pontife Léon XIII. Maintenant, notre petite séance information culturelle. Chers auditeurs, toujours avec Serge de Bequette. Voilà, chers auditeurs, ce n'était pas l'Ave Maria de Caccini que je voulais vous proposer ce matin, mais puisqu'il est passé, nous sommes heureux d'en reparler. C'est ce bel Ave Maria qui a été retranscrit par le violoncelliste dont nous avons eu le merveilleux concert, Vladimir Chevel. Et on peut acquérir ce CD en téléphonant au 01 46 59 38 53. En fait, je voulais vous refaire un peu d'informations sur les chants des chœurs montjoie qui ont fait ces chœurs à la Sainte Vierge, ces chants à la Sainte Vierge de pèlerinage, qui me ravissent, que je mets dans la voiture. Et je sais que vous aviez été quelques-uns à téléphoner la semaine dernière, parce qu'on avait entendu « Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai te voir un jour. »
Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai te voir un jour.
Et donc ce
joli texte,
ces chants qui sont les chants de notre enfance, peuvent être trouvés donc chez la Mère Agitée.
Je crois que c'est 21 rue Campagne.
21 rue Campagne Première.
C'est pas 21, c'est 25, mais voilà. Le facteur doit être capable de corriger.
Voilà, la Mère Agitée, donc les chœurs montjoie, dans une voiture, encore une fois, et dans un grand trajet, je peux vous dire que vous aurez beaucoup de bonheur et vos enfants entendront des musiques religieuses qu'ils n'ont pas tout à fait l'habitude d'entendre et qu'il est bon qu'ils entendent.
C'est pas du heavy metal.
Et voilà. Alors, du cinéma, bien sûr. Vous avez beaucoup de chance. Il y a trois films fantastiques à voir. Trois films de critique sociale. C'est quand même assez critique contemporaine. C'est la vie des autres sur cette effroyable surveillance policière de la Stasi en Allemagne dans les années 70, qui est un film remarquable parce que ce n'est pas du tout un film manichéen. Il n'y a pas d'un côté les bons, les méchants. Et ce que j'ai aimé dans ce film, c'est la force de l'art. La force de l'art fait ouvrir les yeux à un policier de la Stasi. À force d'écouter, c'est un policier qui est installé dans les combles d'un intellectuel, et à force de voir, d'écouter sa vie, parce qu'il y a des écouteurs dans son appartement, à force de vivre sa vie, et c'est-à-dire une vie d'amour et d'art, exactement comme dans le chant de Puccini, cet officier, ce policier va... C'est extraordinaire. Deuxième film génial, Odette tout le monde. Là aussi, critique sociale de notre petit monde parisien, de notre petit monde de l'édition. La force du livre, cette Odette tout le monde qui est génialement interprétée par Catherine Fraud, qui danse comme une déesse et dont la passion c'est Joséphine Baker. Elle est amoureuse folle d'un écrivain qui l'aide à vivre et à traîner sa vie de misère qui n'est pas gay. Et c'est elle finalement la miséreuse qui va aider cet écrivain dans la mouise. C'est d'une gaieté, c'est d'une insouciance, c'est magnifique. C'est un film d'amitié, c'est un film d'amour, et encore une fois, la force du livre. Les livres de cet écrivain qui n'est pas un grand écrivain aident à vivre cette petite bonne femme dans la mouise. Et le troisième film que j'ai vu avant-hier, c'est Molière, qui est absolument superbe. Là aussi, critique sociale. Le Tartuffe, le bourgeois gentilhomme et le malade imaginaire qui est mis en scène. Molière, dans les deux ans où il a disparu, rencontre ses personnages. C'est d'une intelligence extraordinaire, c'est d'une critique sociale aussi bien acerbée. Et Molière est génial. Lucini, en bourgeois gentilhomme, est absolument somptueux, et Madame Jourdan Laura Morante est d'une beauté absolument extraordinaire. Elle a une robe, ces robes du temps de Molière, absolument superbe, et ses seins se soulèvent de son décolleté. Je n'ai jamais vu ça. C'est un film délicieux, et ils sont 9e et 10e. Ils sont pas bien critiqués, alors que je les ai trouvés fantastiques.
C'est bon signe, ça.
Absolument. La conférence de Gérard Marin ce soir au Centre Charlier. Le 8 mars, il va y avoir une conférence de Dreyfus chez Lesquin au club de l'horloge rue de Stockholm.
Il y a une conférence, et puis une concurrence puisqu'il y a une conférence du Marquis aussi.
Ah oui, conférence du Marquis
à la commanderie du clos
et Montmartre. Puis chers auditeurs, le 16 mars regardez bien votre 16 mars vendredi, le duo gaïanais avec des chants accompagnés au piano, chants arméniens, mélodies françaises et chants et opérettes et tout ça à la Cité universitaire comme vous le savez. Donc le 16 mars, entrée libre. Et puis je vous dis au revoir pour deux petites semaines, parce que vous le savez, je pars à Rome et que je suis très heureuse et que je vous emmène avec moi. Et que j'ai enregistré deux émissions que j'espère vous aimerez. L'une de Laurent Lagertemps sur l'émigration et la Méditerranée, qui est un livre d'une grande intelligence et merveilleusement écrit. Et l'autre d'un grand, grand écrivain russe que j'aime infiniment, qui est Andrei Makin. Vous trouverez d'ailleurs un article sur Andrei Makin dans le Libre Journal, sur ce beau livre qui s'appelle L'amour humain, dans le Libre Journal de cette semaine.
On peut peut-être dire que c'est un article signé Anne Brassier.
C'est un article signé Anne Brassier, 4 place 36 dans le 10e. Chers auditeurs, cher Serge,
merci.
Merci pour cette heure qui est passée au grand galop. Au revoir.